On est aujourd'hui le mardi Koar Mar Cheshvan, on est le 10 novembre, et le cours sera pour la Refoua Shelema de Laetitia Myriam Bat Joseph Sultana.
Amen.
Donc comme on a l'habitude de procéder, on va lire quelques lignes et on va expliquer, surtout que c'est des notions pas très simples, et si Dieu veut aujourd'hui on va pas mal s'écarter du texte aussi pour rentrer un petit peu dans le Chumash comme vous allez le voir. Et on commence le troisième chapitre, Perek Gimel, à la page donc Shara Yichud Ve'emuna. Ve'ine achari advarim va'emet ha'ele. Après t'avoir expliqué tout ce que l'on a expliqué, la plupart d'entre vous étaient déjà là dans les cours précédents, et donc il s'adresse à nous et nous dit kol maskil al davar, tout celui qui va maintenant, qui a bien compris ce que j'ai expliqué, les Oshro. Tu dois comprendre que finalement, tout ce qui existe dans ce monde, et ce qui nous intéresse nous le plus, c'est les créatures, c'est les hommes, parce que comme on dit souvent, ce monde est tellement beau, dommage qu'Hachem a aussi créé les hommes. C'est vrai, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus affreux que les hommes, que les humains? C'est horrible. Le monde est tellement beau. Vous visitez la Syrie. La Syrie, c'est un très beau pays. Mais quand vous y voyez ce qui vit, Berk. Et donc, à titre d'exemple, et c'est vrai que bon, c'est peut-être l'erreur qu'Hachem a fait, mais ça ne peut pas être une erreur. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé à la création de l'homme, il a dit Veine Tov Me'od. Il a dit que c'était extraordinaire. Sur la création elle-même, qu'on trouve si belle, il a dit c'était Tov uniquement. Quand il est arrivé à l'homme, il a dit Tov Me'od. Peut-être que l'homme à son époque, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, si on réfléchit un petit peu à tout ce qui a été expliqué, on se rend compte que finalement, chez Kol Nivra, que toutes les créatures, et on parle surtout des hommes, Veyesh, tout ce qui existe, ou Behemet, Nirshav, Le Ein, en vérité, ça n'a aucune consistance, ça n'a aucune réalité. On est tous tellement impressionnés par quelqu'un qui nous impressionne, par quelqu'un qui nous insulte, par quelqu'un qui nous fait des reproches, par quelqu'un qui nous cause des soucis. Mais finalement, si tu réfléchis, c'est toi qui l'as devenu crédit, il n'existe pas, il n'existe que dans ta tête. Comme toi d'ailleurs, tu n'existes que dans ta tête. Les NVFS, tout est en vérité NVFS. Mamash, les Gabé, Koar, Apoel, Verouar, Piv. Rien n'existe vraiment si ce n'est que le Rouar, que le souffle de vie, que l'énergie qui se trouve à l'intérieur de cet existant, de cette créature. Mais si tu enlèves l'énergie de lui, qu'est-ce qui reste? Comme je dis toujours, Matrix, vous avez toutes vu Matrix. Il faut voir le 1, Matrix. Le 2, il est nul, mais le 1, il est très bien. Et le... Donc, il retire l'énergie et il ne reste rien. Chez Benifal, c'est des Juifs qui ont fait Matrix. Et il paraît qu'ils avaient demandé, ils cherchaient un film un petit peu comme ça, ils ont demandé à des Mekoubalim. Non mais j'ai entendu, ils ont demandé à des Mekoubalim qu'ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne après la Kabbalah, leur expliquer ce truc-là, et ils ont fait Matrix. Donc, Verouar Piv chez Benifal, bon, redevenant sérieux, on est un rabbin. Verouar Piv chez Benifal, Améave Ototami. Donc si c'était cette énergie qui donne constamment vie à la réalité, et qui lui permet, ou Motsio Me'ai Mamash, de sortir du néant, les Yesh, pour en faire quelque chose qui apparemment pour nous a l'air d'exister, mais en vérité c'est un fantasme, parce qu'il n'y a que l'énergie d'Hachem qui existe vraiment, que son souffle de vie et sa volonté. C'est quelqu'un de chez nous, un téléphone. Umashekol nivra venif'al. Nire lanou, écoutez bien ce qu'il dit. Uma shekol nivra venifal nire lanou le yesh. Et ce qui fait que tout ce qu'il y a autour de nous, on a l'impression que ça existe véritablement. Uma mashut, on a l'impression que c'est vraiment du mamash. Zeu mechamat she'en lanou masigim. Ça vient de notre imperfection, de notre incapacité à nous de percevoir. Veroim et de voir, beine basa, avec nos yeux de chair. Et koar Hachem, le koar d'Hachem. Verouar Piv et son souffle chez Benivra qui se propage dans la créature. Avalilou nitna reshut le ayn lirod. Mais si nos yeux pouvaient vraiment voir le monde tel qu'il est véritablement, ou le asig et achayut, et qu'on soit capable de capter et de comprendre cette énergie rouhanit non matérielle qui se propage dans ce qui existe à nos yeux, chez Bechol Nivra, a chauffé à Bo Memotsepi Hashem, qui vient de la volonté d'Hashem. Loaya Gashmiut Anivra Vechomro Mamasho Nire Klal Eneinu. On ne verrait même plus la réalité matérielle, physique du monde. On a devant soi quelqu'un qui vient, qui nous insulte, qui nous humilie, qui nous vexe, etc. Ouah, on a l'impression que ça y est, c'est la fin du monde. Mais en vérité, je veux dire, si tu voyais qu'il y a dedans le souffle d'Hachem et que toute cette gâchmiyoute, en vérité, ce n'est qu'une illusion à tes yeux, paf, il se désintégrait complètement. Et donc, ou batel bimsiout mamash, parce qu'il est complètement batel. Alors évidemment, on va s'arrêter pour le texte aujourd'hui. Désolé, on ne lira pas plus. Ça fait effectivement très science-fiction, ça fait très... Bon, c'est tout à fait providentiel pour celles qui ont pu écouter le cours de ce matin, je ne l'ai pas fait exprès. C'est exactement ce qu'on a expliqué ce matin. Juste à titre de rappel, on explique que le roi David, au sujet duquel nos maîtres disent qu'il n'y a jamais eu un homme qui a été autant humilié, autant vexé, autant attaqué, autant tout ce que vous voulez, autant transformé en serpillière par le monde entier, par ses plus proches amis, par tout ce qu'il aimait, en qui il avait confiance, qui l'ont trahi les uns après les autres, et surtout après la faute avec Bathsheba. Et on a vu un psaume, justement, ce matin, où c'était vraiment providentiel, où David, lui, alors qu'il avait, comme on sait, c'était un homme qui avait un sang chaud, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui ne laissait rien passer. Il était admoni, rouquin, qui est le signe, on pourrait dire, d'un homme, de sang. Malgré tout, quand on l'humiliait, qu'on lui manquait de respect de manière très grave, en plus, c'était un roi, c'était pas simplement un homme quelconque, malgré tout, il se taisait. Alors qu'il explique dans les psaumes que la colère brûlait en lui et que... Mais il se taisait. Comme j'ai rapporté cette histoire ce matin, que quand il a fui Jérusalem, au moment de la révolte de son propre fils, Absalom, qui voulait le tuer, qui lui a violé ses 18 femmes, vous imaginez, nos maîtres disent que... Je l'ai souvent expliqué que pour comprendre ce qu'est la guerre de Gog et Magog, le dernier grand conflit mondial avant la délivrance finale, nos maîtres disent à quoi ressemble la guerre de Gog et Magog. C'est comme quelqu'un qui est en voyage et puis tout d'un coup il est attaqué par un loup. Il se met à courir, il échappe de justesse au loup. Bon, un loup c'est dangereux, mais ça reste un loup. Après il continue un petit peu, tout d'un coup arrive un ours de forêt, c'est beaucoup plus dangereux qu'un loup. Il arrive, il a tellement peur qu'il oublie déjà le loup, il pense plus qu'à l'ours. Et puis bon, il échappe à l'ours aussi, continue, tout d'un coup arrive un lion. Qu'est-ce que c'est un ours par rapport à un lion? Un lion, t'as aucune chance. Bon, il court. Mais pendant qu'il court, il a oublié et l'ours et le serpent. Et bien, il arrive à échapper aussi et le serpent et l'ours. Il arrive à échapper aussi à un lion. Et puis après, arrive un serpent, un grand cobra, qui lui court derrière. Alors, quand il s'enfuit du cobra, il pense ni au lion, ni à l'ours, ni il pense qu'au cobra. Et nos maîtres disent, c'est pareil, toutes les tsarot qui se sont abattues sur l'âme Israël, surtout qu'on est dans une tsara, on pense que c'est la dernière, il n'y aura pas pire. Et quand arrivera la guerre de Gog et Magog, on oubliera toutes les autres. Et donc, nos maîtres vont jusqu'à dire que la souffrance que David Améler a ressentie au moment où son fils l'a poursuivi pour le tuer, c'était une souffrance plus grande encore que la souffrance que l'âme Israël ressentira au moment de la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire, vous imaginez un homme qui est dans une situation de détresse totale, parce que quand même être trahi par son fils, c'est pas n'importe quoi, c'est pas évident. Et un fils qui veut tuer son père, surtout qu'on n'est pas chez les Zoulous, on est quand même dans la famille du roi David. Je veux dire, c'est pas courant. D'ailleurs, c'est introuvable. Ça s'est jamais pu trouver dans l'histoire, dans une famille normale et plus que normale encore. Il est en train de quitter Jérusalem, tout d'un coup sort Shimi ben Gera. Shimi ben Gera, c'est pas n'importe qui non plus, c'est le chef du Sanhédrin, c'est le prince du Sanhédrin, qui lui tombe dessus alors qu'il est dans un état de détresse totale psychologiquement. Quand on est très très fragilisé, vous savez qu'on n'a pas intérêt à nous toucher. C'est pour ça que je veux dire, c'est classique l'histoire. Encore une fois, je reviens avec mes gros sabots. Vous imaginez une femme toute la journée avec ses quatre gosses en train de brailler, de la rendre folle, etc. Le mari il rentre le soir, il dit un mot de travers, il est mort. Pourquoi? Parce que je veux dire, elle est extrêmement fragilisée, elle n'en peut plus. Mais lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé comme un homme, donc il a dit une bêtise par définition. Mais alors, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que je veux dire, non, je suis trop fragile. Et donc, vous imaginez l'état dans lequel se trouve le roi David. Et sort Shimi Ben Guerra, il l'insulte, il le traite, il lui dit « Tu n'es qu'un débauché, tu es un assassin, tu es un moavi, tu es un mabzer, tu es... » Qu'est-ce qu'il lui dit pas? À ce moment-là, Yoav, son général d'armée qui est avec lui, il sort son épée pour le tuer. David lui dit « Laisse, c'est pas lui qui parle, ça vient d'en haut. » Alors évidemment, c'est une histoire, quand on lit ça, on se dit « Bon, ben, s'il était grand le roi David, mais on se rend même pas compte, c'est même pas naturel, c'est surnaturel, on se rend même pas compte ce que ça veut dire. » Dans le contexte psychologique, vous imaginez, je ramène ça à nous, mais excusez-moi avec mes gros sabots, mais on imagine ça à nous. Bon, imaginez-vous une femme, toute la journée, elle a eu des problèmes avec les gosses, ils se sont chamaillés, ils se sont battus, etc. Elle a même dû courir à l'infirmerie parce qu'il y en a un qui est tombé, etc. Mais vraiment, bon, on sait que c'est une femme qui doit éduquer en même temps 4 ou 5 gosses quand elle les a l'un après les autres. Et puis bon, elle est quand même arrivée à préparer un repas à son mari. Elle est quand même arrivée, c'est une héros, c'est héroïque. Le mari rentre, mais ça c'est classique. Oh, mais t'as fait la même chose il y a 2 jours. Vous imaginez? Vous, je vous imagine. Rien que je vous vois, je vous imagine. Mais, non mais regardez pas, vous êtes toutes pareilles. Mais vous imaginez? Parce que, attends, je suis extrêmement fragilisé. Et je suis à bout de nerfs. Et tu me sors un truc pareil. Mais ça, c'est le coup de grâce. Si t'es encore vivant après, je suis vraiment une échette raïle. Parce qu'une femme normale, il reste rien. Rien. Imaginez-vous maintenant, multiplié par des milliards, David Ameller. Un bon roi, un homme qui a donné sa vie pour son peuple. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son peuple, cet homme-là? Et évidemment, comme c'est connu, un dirigeant, plus il fait, plus il récolte des critiques et des insultes. C'est la définition même d'un dirigeant. Sinon, c'est pas la peine de le devenir. Et donc, David, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour son peuple? Il se fait attaquer par son propre fils. Il sort de Jérusalem. Il se fait attaquer par le chef du Sanhédrin, qui le traite mot à mot d'assassin, de débauché, de mamzer et de goy, puisque d'après l'école, qui disait qu'il ne pouvait pas se convertir, puisqu'il venait de Ruth, et d'après une grande partie du peuple juif, Ruth n'avait pas le droit de se convertir, puisqu'elle était de Moab. C'était une erreur, mais c'est comme ça que même des grands d'Israël pensaient. Vous imaginez la force qu'il faut à ce moment-là pour se dire « Laisse-le ». Laisse-le. C'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. Bon. Maintenant, on a expliqué ce matin, on s'est posé la question dans un autre cours, dans un autre contexte. Mais comment qu'on atteint un niveau pareil? Alors, on a expliqué dans un autre contexte, par rapport à ce qui est dit ici, mais ça se rejoint. C'est qu'en vérité, quand un homme réagit violemment à une insulte, à une attaque, c'est-à-dire qu'on revendique des choses qu'il a ou des choses qu'il prétend être, s'il réagit violemment, c'est que c'est sûr et certain que ce qu'il a ou ce qu'il est n'a pas atteint son essence. Ça veut dire qu'il ne le porte pas dans son essence. Parce que quand tu remets en cause le statut de quelqu'un, d'accord, tu n'es pas une bonne épouse, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas un bon dirigeant, tu n'es pas un bon roi, tu n'es pas un bon juif, peu importe, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas une bonne mère, et que ce que tu es, tu le portes dans ton essence, à ce moment-là, ça ne peut pas te toucher. Si tu réagis violemment, c'est que tu sais que finalement, il y a beaucoup de vrai dans ce qui est dit. Parce que sinon, tu ne réagirais pas comme ça. Je donne toujours l'exemple simple. Faites l'expérience, mais seulement allez-y avec des gants de boxe. Vous allez à Tel Aviv, un Shabbat. Vous arrêtez à la terrasse d'un café, vous prenez un Israélien qui est en train de fumer, etc. Et puis en train d'écouter son frère. Vous dites, t'es pas un juif, toi hein? Le pauvre, il sort d'une saïrette, il a risqué 150 fois sa vie. Et c'est pas marqué sur sa tête au moment où tu dis ça. Il a 25 ans, 27 ans, donc il a l'âge d'avoir risqué 100 fois sa vie pendant que moi je me la coule douce dans une chive en train d'étudier la Torah. Et donc tu lui dis, tu sais, t'es pas un juif toi. Je veux dire, si c'est un homme normal, dans 82% des cas, vous terminez pas la phrase, la phrase vous a descendu. D'accord? Maintenant, imagine, moi je passe dans la rue et quelqu'un me dit, toi t'es pas un juif toi. Vous m'imaginez, moi ou vous, réagir violemment? Je ne comprends même pas ce qu'il veut. Je pense qu'il plaisante. Pourquoi? Parce que mon identité juive, c'est mon essence, c'est moi. Je veux dire, tu ne peux pas remettre en cause mon essence. Par contre, ce juif là-bas qui réagit violemment, en fait, ça prouve que malgré le fait qu'il fume Shabbat, il se sent juif. Mais le fait qu'il réagit violemment, ça prouve aussi qu'il a un rapport très fragile avec son identité juive. Il sait que finalement, il n'est pas vraiment sûr est-ce qu'il l'est ou non. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait en tant que juif? Donc c'est pour ça qu'il réagit violemment. Ce qui veut dire que le signe d'une réaction violente, d'accord, c'est... Donc, mesdames, sachez déjà que si un jour votre mari, à partir d'aujourd'hui, vous dit que tu n'es pas une bonne épouse ou pas une bonne mère, si vous réagissez violemment, c'est qu'il a raison. Parce que c'est pas possible qu'une bonne mère, qu'une bonne épouse, elle réagit violemment. C'est difficile à comprendre ce que je dis, parce que la logique cartésienne occidentale, elle va dans le sens contraire. Plus tu me reproches une chose que je suis sûr que c'est faux, plus ça doit me mettre en colère. Puisque c'est faux, c'est monstrueux, c'est faux. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Parce que ça passe pas par là, ça passe par là. Si je suis sûr de mes droits, je réagis pas violemment. Comment ? C'est stupide. Voilà, c'est stupide. C'est stupide. J'ai même pas de mots. Écoute, je suis désolé, mon mari, mais c'est stupide. Non, mais le doute, ça prouve que c'est pas dans les sens. Mais non, attention, vous inquiétez pas, en tant que femme ou en tant que mari, d'avoir des doutes si vous êtes une bonne épouse ou un bon mari. Parce que qui c'est qui peut affirmer qu'il est, oui, une bonne épouse ou un bon mari ? Ça, moi, je ne fais que détailler le mécanisme. La réaction violente est la preuve d'une fragilité dans ce que l'on veut enlever par l'insulte ou l'humiliation, etc. Ah, plus de toute façon, quand on veut te l'arracher des bras, comment ? Non, la peine ne déclenche pas la colère et la violence. La peine, au contraire, elle déclenche une paralysie. Les mécanismes sont mal expliqués par les gens. La peine, au plus, elle va me paralyser. Je vais me mettre dans mon fauteuil, je vais peut-être pleurer, mais je ne serai pas violente. Je ne comprends pas. Mais si je réagis violemment, je te rentre dedans, va chez ta mère, disparaît de la maison, tu peux être sûr qu'il a touché une vérité en moi. La colère est la preuve d'une fragilité. C'est clair. Et donc, pourquoi le roi David, lui, n'a pas réagi violemment ? Parce que qui va remettre en question le fait que je suis juif, roi d'Israël, élu par Hachem et propre, avec des faiblesses, mais c'est-à-dire j'ai une faiblesse. Mais je suis fondamentalement un homme propre, etc. Donc tout ce que tu as dit, ça ne me touche pas. Bon, c'était difficile pour lui, parce qu'il avait quand même été avec Bathsheba. La grandeur de David, c'est qu'il est arrivé à toucher son essence. Il est arrivé à vivre et à ressentir ce que les maîtres d'Israël ont osé dire pour, d'une certaine manière, presque voire même l'excuser, que « Reuya aita Bathsheba le David Aveler, Meshechet ime Bereshit » qu'en vérité, que Bathsheba, il lui était destiné depuis les 6 jours de la création. Et comme je l'ai souvent expliqué, mais c'est pas grave de le réentendre une énième fois, nos maîtres posent la question, mais ça veut dire quoi ? Mais toute femme est destinée à un homme, c'est marqué que c'est Hachem qui fait les Ivugim. Donc quel est le chidouche de David ? Qu'est-ce que signifie depuis les 6 jours de la création ? Ça signifie une chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'en vérité, évidemment, chaque homme est destiné à chaque femme est destinée à chaque homme. Mais dire que c'est destiné depuis les 6 jours de la création, ça veut dire qu'au moment où Hachem a construit le monde, ça veut dire les grands, grands principes de l'existence, il a créé le couple David-Bathsheba. C'est-à-dire que le couple David-Bathsheba fait partie des structures fondamentales du monde, sans lesquelles, de la même manière que le monde ne peut pas fonctionner sans soleil, le monde ne peut pas fonctionner sans le couple David-Bathsheba. Et quand il s'est retrouvé en face d'elle, en vérité, c'est pas elle qui l'a vu. C'est toute l'essence et tout l'avenir d'Israël, que c'est quand même d'elle que sort Mashiach et Shlomo Ameler. C'est pas elle qui l'a désiré, c'est la reconstruction des âmes, parce qu'elle était vraiment son âme sœur. Et l'épreuve pour lui était terriblement difficile, parce qu'il était pris par des forces qui étaient pratiquement surnaturelles, au point que le Talmud dit que si Hachem n'avait pas renforcé le Yetzerara contre David, David n'aurait pas fauté. Bon, ça nous paraît très, très bizarre, c'est déjà quoi, Hachem renforce le Yetzerara. Mais tout ça pour vous dire, pour vous ayez, ne serait-ce que la musique, même si vous n'avez pas les paroles, que pour David Ameler, il a compris que ce n'était pas une faute dans le sens il est parti houcher avec la voisine. Ce n'était pas ça. C'est pour ça que quand l'autre lui a dit « tu n'es qu'un sale coucheur », ça ne l'a pas touché. Parce qu'il était attaché à son essence. Et dans son essence, il savait que ce n'était pas vrai. Et c'est pour ça. Comment ?
Pourquoi il a fallu que Dieu, enfin que Hachem, il lui renforce le Yetzerara ? Pourquoi il faut passer par la corde ?
Parce que, vous savez ce que le Talmud dit ? C'est fou. C'est pour ça que j'ai jamais fait de me taire. Le Talmud dit que David Ameler n'a fauté ou n'a été fait fauteur par Hachem que pour enseigner au monde la Teshuvah. Ça veut dire que pour montrer au monde que rien ne résiste à la Teshuvah. Parce que si David Ameler, vous imaginez, je vous donne un exemple.
Il dit qu'il a fauté.
Il a fauté aux yeux du peuple. Parce qu'en fait, elle était divorcée, comme on le sait, etc. Mais il y a un Chilul Hashem énorme. Mais en vérité, il faut comprendre. Imaginez-vous, parce que quand j'ai David Ameler, aucune d'entre vous ne comprend. Alors je vais être très violent. Imaginez-vous qu'il arrive la même chose à Rav Obadiah Yosef ou Rabbi Lubavitch. Quelqu'un va continuer au 770 ou quelqu'un va continuer à aller à... Quelqu'un... C'est fini. On tire la chasse, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de crédibilité, il n'y a plus rien. Et pourtant, avec tout le respect qu'on leur doit, David et Meller, c'est eux multipliés par des milliards. C'est David et Meller. C'est David et Meller. Il fait partie des Lévi Marichonim. Il est plus grand encore que Esaïe, que Jérémie, que... C'est Mashiach. Donc, vous imaginez la force qu'il faut à un homme pour réapparaître en public quand tu es le modèle. Le modèle. Et qu'est-ce qu'il n'a pas traversé comme insulte, etc. Mais je veux dire, il se cache, il s'enfuit, il se rase la barbe, il disparaît, il change ses papiers, il se fait une chirurgie plastique, c'est fini. Mais vous imaginez que ça arrive à Rav Ovadia Yosef et que le lendemain, il revient à son chiour comme si de rien n'était. C'est impossible. Avec tout le respect qu'on lui doit, c'est au-delà des forces humaines. David Ameller a voulu montrer que si un homme veut, il n'y a rien qui peut résister à la Teshuvah. Rien. C'est-à-dire qu'il a été placé dans la situation impossible, au-delà des limites du vraisemblable. Et il a dit, alors quoi ? Je suis tombé. Et alors quoi ? Je vais rester en bas. La grandeur de l'homme n'est pas de ne pas tomber. La grandeur de l'homme est de pouvoir se relever. Et lui a été placé dans une situation extrême pour montrer que si lui a pu réparer, qui peut venir au nom de « c'était trop dur, après ce que j'ai fait, comment Hachem voudra encore de moi ?» Non seulement Hachem a encore voulu de lui, mais il a dit « le Mashiach continuera à sortir de toi ». Plus encore, de cette femme-là avec laquelle Dieu est tombé. Ça veut dire, c'est pas, il en avait 18. On se serait attendu à ce qu'Hachem dise, mais c'est bon, l'une des 17 autres. Non, avec cette femme-là qu'elle était tombée. Pourquoi ? Parce que David n'est pas tombé pour des problèmes qu'on peut l'imaginer à notre niveau. David est tombé à des niveaux qui nous dépassent complètement parce qu'il a été capable de comprendre dans l'essence des choses où se situait sa faute. Encore une fois, aucune comparaison par rapport à nous, aucune précipitation à nos modèles à nous qui sont même pas au ras des pâquerettes, dans nos fautes à nous. Mais malgré tout, si la Torah nous en parle, c'est pour nous faire comprendre qu'à notre niveau, tu as fauté, tu es tombé, c'est dégueulasse, bécédère. Mais je te préviens, si tu ne te relèves pas, gare à toi. C'est ce que, entre autres, expliquent certains grands maîtres qui disent pourquoi la faute est comparée au serpent. Je vous l'ai déjà dit des milliers de fois aussi. Pourquoi ? Parce que le serpent, en réalité, quand il te mord, il te fait très très mal. Mais ce n'est pas la morsure qui te tue, c'est le venin. Et le venin ne lui fait pas mal du tout. Au moment où le venin rentre, tu sens une sensation de chaud, mais c'est que quand il atteint le cœur que tout se bloque. Mais c'est le venin qui te tue. Et donc nos maîtres expliquent la chose suivante, quand tu fautes, c'est pas la faute qui te tue, c'est le venin qui rentre avec chaque faute. Et c'est quoi le venin ? Le désespoir de ne plus pouvoir s'en sortir. Le yéhouch, la hatzfout, je m'en sortirai plus. Après ça, qui voudra encore de moi ? Et c'est ça qui te tue. Et c'est là que tu as attendu. Tu t'es fait mort, mais c'est d'ailleurs, pourquoi tu tombes maintenant ? Relève-toi. Donc en tous les cas, c'est pas mon cours. Je continue parce que mon cours Béhémeth n'est pas commencé. Ce que je vais expliquer, c'est la chose suivante. Quand un homme touche l'essence, il comprend au niveau de l'essence que quoi ? Que finalement, il n'y a pas une situation dans laquelle on ne peut pas s'en sortir. Lui, il prend l'exemple un peu différent du mien, qui était mon cours de ce matin. J'ai quelqu'un en face de moi, d'accord ? Il m'impressionne, il me fait peur. C'est quoi ? Ça peut être un banquier, ça peut être un mari, ça peut être une femme, ça peut être un ennemi, etc. Mais prends en conscience que il n'a aucune consistance, c'est pas que lui donne du crédit. C'est toi qui lui donnes du crédit. On passe notre temps à donner du crédit à des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire qu'en vérité, si un homme il avait une émouna totale, que n'existe que la volonté d'Hachem, il ne verrait personne. C'est ce qui fait la différence entre un homme et un autre, entre la force de l'un et la force de l'autre, entre quelqu'un qui est courageux, entreprenant, qui traverse l'existence comme un héros, et un autre qui baisse la tête dès qu'il croit que son ombre est en train de le poursuivre. C'est qu'à ce niveau-là, la différence entre vous et moi, entre vous et des autres, entre moi et des autres, entre nous tous, c'est pas est-ce que j'ai plus appris, est-ce que j'ai fait plus de mitzvot. Ça, c'est uniquement les instruments qui m'amènent à. La vraie différence entre un homme et un autre, c'est combien tu donnes crédit à tous les obstacles qui sont en face de toi. Et plus tu donnes des crédits à la force qui est en face de toi, plus tu crois qu'elle est indépendante, qu'elle est autonome, que vraiment elle est impressionnante, et plus tu tombes. Toutes les peurs, toutes les angoisses qu'on a, ça provient de ça. T'as peur de quoi ? Tu t'angoisses de quoi ? Oh, on a un rendez-vous, je m'excuse d'être si nul, mais oh là là, tu te rends compte, on a un rendez-vous avec le banquier. Mais qu'est-ce qu'il a le banquier? Mais qu'est-ce qu'il a le banquier? Excuse-moi, je vais être grossier comme je sais l'être. Il ne va pas aux toilettes comme toi. Qu'est-ce qu'il a le banquier? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Eh non, très bien, alors il va fermer ton compte. Et alors? Et alors? Tu vas fermer ton compte.
Et alors?
Tu vas avoir un autre, tu vas comme tous les Israéliens. Tu vas emprunter pour emprunter. Nous, les Français, on ne sait pas vivre comme ça, mais on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils empruntent pour pouvoir réemprunter. Et c'est comme ça que ils empruntent. Après, ils s'en vont de ce monde, c'est les autres qui payent les dettes. C'est comme ça, il faut savoir vivre à l'israélien. Tu empruntes, etc. Mais non, les très Français nous apprennent, s'il y a 2000 euros de découvert à la banque, ça ne se fait pas. Et avec des 200 000 euros, ils ont tout le monde paître. Pourquoi? Parce que la vie est plus importante que ces soucis-là. D'accord. Mais si on revient à les détails, après vraiment je commence mon cours, qui n'est pas lié au Tania, mais vraiment, parce que je ne peux pas m'empêcher de le dire, regardez, des fois, je veux dire, dans une communauté, dans une rue, dans une ville, dans une maison, dans une famille, on reste des mois et des mois sur un mot qu'on a entendu, qu'on n'aurait pas dû me dire, etc. Je suis vexé. Je suis vexé. Mais vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit? Ah oui, mais des gens que toute leur vie, elles changent parce qu'ils sont vexés. Mais vous vous rendez compte le niveau, mais c'est à ramasser à la cuillère. Je ne te parle plus parce que tu m'as vexé. Tu as osé me dire ça à moi. Moi, ton mari, moi, ton épouse, tu as osé me parler comme ça. Mais alors, c'est quoi? C'est de la chair. Il y a des dents, il y a une langue. Voilà. Il a parlé, à ce moment, il a parlé. C'est de la chair. Demain, il sera mangé par les vers. Et il ne restera rien. C'est difficile de... Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'on s'attache tôt. On s'attache trop à la mama shoot, nous explique le maître. La mama shoot, mais qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est... D'accord. Et lui qui t'a vexé, qui fait le malin, là, tu sais, hein, j'ai pas peur de toi. Eh bien, demain, si c'est ton mari ou ton épouse, demain, il aura un problème, il sera malade, etc. Tu vas voir comme il va t'appeler. Ma chérie, je t'en supplie, ma chérie, je t'en supplie. Tu vas voir. Sans maintenant, il s'y croit, et tout. Mais, chut, dégonfle. Il n'y a rien. Je commence le cours. Maintenant, regardez. Nos maîtres nous disent, parce que c'est extraordinaire, on parlait du nachash, j'avais une intention, pourquoi j'ai parlé du serpent. Nos maîtres nous révèlent une chose absolument incroyable. Ils nous disent, vous savez quelles sont, à quoi font allusion les trois lettres du mot nachash, serpent, rachetevot, nun, chet, shin. La gématria de nachash, on le sait, c'est machiar. Oui, bien sûr. Si vous ne saviez pas, pourtant, oui, c'est connu.
C'est parlé.
Valeur numérique, Nachash Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est ou Nachash ou Mashiach. Ou tu es sous l'influence du Mashiach, ou tu es sous l'influence du Nachash. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sous l'influence du Nachash. Mais nos maîtres nous révèlent une chose, c'est dans le Zohar, une chose absolument incroyable sur le mot Nachash. C'est racheter votre Nun Noar, Chet Chava, Shin Sara.
Shin Sara?
Si, Sara.
Ah, Sara.
Sara. Sara aimez-nous. Le Nachash fait allusion à trois personnages fondamentaux qui sont, pas dans l'ordre, mais dans l'ordre des lettres, Noar, Chava, la femme d'Adam, et Sarah. Ça fait allusion à ces trois personnages. Et le Zohar dit pourquoi? Parce que Sarah a commencé à faire le tikkun, et c'est pour ça que c'est la dernière lettre, elle a commencé à faire le tikkun de la faute du serpent. Et le Zohar va et nous raconte l'histoire de Chava et de Noar avant Sarah d'une manière complètement nouvelle, qu'on n'est pas habitué à entendre et à étudier. Qu'en vérité, nous, quand on lit l'histoire, par exemple, de Chava, on a l'impression que Chava était dans le Gan, etc. Vous connaissez les femmes, elles étaient en train de faire la vitrine, sauf que la vitrine à cette époque-là, c'était des arbres, d'accord? Et puis, oh, il est beau ce viton-là, il est beau ce viton. Je ne sais pas demander à mon mari comment je vais faire un petit viton, quand même. Et donc, le viton, c'était l'arbre défendu. C'est les sous que son mari n'a pas. Très bien. Le problème, c'est que vous imaginez au moment où elle est folle devant un viton, que tout d'un coup arrive un prince charmant qui dit, vous savez, votre mari ne peut pas, mais moi je peux. Alors là, c'est la catastrophe. Comment qu'elle va faire? Elle choisit quoi? Son mari ou le viton? Qu'est-ce qu'elle fait? Très bien. Sauf que le viton, il a un prix. C'est que c'est plus son mari. Très bien. Ok. Donc, c'est vraiment quand on lit l'histoire, ben, l'histoire, elle est idiote. Une sotte qui s'est fait avoir une fois de plus. Voilà. D'accord. La femme sotte. Voilà, très bien. Et le Zohar dit, mais pas du tout. Mais c'était pas du tout une sotte. Elle avait un plan, Chava. Elle voulait casser le Nachash. En vérité, elle est la première qui a voulu casser le Nahash, mais elle s'est fait avoir. Après Noar, lui aussi, il a voulu casser le Nahash, mais il s'est fait avoir. Et est venue Sarah, c'est la première qui réussit à lui casser la tête. À quoi fait allusion? Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, on y va, doucement. C'est quoi le Nahash? Alors évidemment, j'espère qu'aucune d'entre vous pense qu'il y avait un serpent dans le Gan, et en plus qu'il parlait. Le Nahash, en vérité, on comprend ce que c'est par rapport à son discours. C'est une métaphore, le Nahash. Et pourquoi on l'appelle Nahash? Parce que justement, il vient comme un serpent. Il ne fait pas de bruit, tu n'entends pas, tu ne le vois pas. Et quand il commence à t'entourer, c'est déjà trop tard. Tu es déjà mort. C'est pour ça que la Torah utilise la métaphore du Nahash pour expliquer que le phénomène Nahash, il vient comme un Nahash. C'est-à-dire que la Torah parle le langage des hommes. Elle utilise des images de ce monde comme les fables de la fontaine. Maître corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage alléché. D'accord. Il n'y a pas de corbeau qui tienne des fromages. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Avdil, ils veulent nous transmettre un message. Alors ils donnent des images. Les Avdil, le faire de la nôtre. Le premier qui a commencé à utiliser des images pour transmettre des messages, c'est la Torah. C'est ce qu'on appelle la parabole, la métaphore. La métaphore. Donc le Nahash, c'est pour nous faire comprendre que tu es en face d'un mâle qui vient silencieusement, il ne fait pas de bruit. Et quand tu t'en aperçois, parce qu'il est déjà à ta hauteur, il t'entoure déjà suffisamment, tu ne peux plus rien faire. Ah, t'es mort. Voilà. Ça, c'est le Nahash. Maintenant, regardez quelque chose d'absolument incroyable. Vous vous apercevez qu'avant la venue du Nahash, évidemment, Chava et Adam sont dans le Gan Eden, d'accord? Et donc tout va bien. Vous imaginez, ils sont dans le paradis. Magnifique. Et comment s'appelle Dieu avant la venue du Nahash dans le texte? Il s'appelle Hachem Elohim. Les deux noms. Hachem Elohim, vous regarderez tous les versets qui parlent de Dieu depuis que Adam et Chava sont dans le Gan Eden. Dieu s'appelle Hachem Elohim. Rashi explique c'est quoi Hachem Elohim? Ça veut dire que Elohim c'est Midat Adin, c'est la dureté. Hachem c'est Midat Rachamim, c'est la bonté. La clémence, la pitié, etc. Qu'est-ce qu'explique Rashi? C'est que Hachem ne pouvait pas créer un monde dans lequel il n'y aurait que Elohim, parce que le monde ne pourrait pas tenir, c'est trop dur. Et donc il a associé Midat HaRachamim, il a associé Avayé pour adoucir les rigueurs, pour faire en sorte que le monde peut tenir malgré les rigueurs. Bon, on peut comprendre ce que ça veut dire. Donnons un exemple très très simple, d'accord? On est tombé par hasard sur l'exécution de 30 prisonniers en Syrie par Daesh. On a vu ça sur YouTube, etc. Et on est vraiment choqué. Et puis tout d'un coup, notre petit enfant, il nous appelle. Alors on va dans la chambre, on voit. Bon, Hachem, heureusement qu'on ne vit pas uniquement sur les catastrophes de ce monde. On a nos enfants, et on espère aussi notre mari, pourquoi pas. On a quand même des visages qui... Et là aussi le mari rentre et que ça ne fait qu'accentuer d'âge, c'est la catastrophe. Mais en principe...
On aime le mari.
Comment? Non, je ne sais pas. Mais je sais que vous l'aimez, votre mari. Mais bon, vous savez, dans ce monde, mieux vaut, comment dire, être magim refoua la maca. Et donc, on a des bons moments. C'est vrai, on a des disputes. C'est vrai, on a des mauvais moments dans le travail. On frôle des fois la faillite, mais des fois aussi on gagne beaucoup d'argent. Et comme dit le proverbe américain, ne peut devenir millionnaire que celui qui a su surmonter ses faillites. Proverbe américain très connu, très américain, très juste. Tu ne peux pas devenir millionnaire si tu n'as pas su vivre des faillites. Parce que il faut savoir te battre pour devenir millionnaire. Et quand c'est qu'un homme se bat? Dans une faillite. Donc ça c'est un vrai millionnaire. Donc, ça c'est Hachem Elohim. Tout d'un coup vient le Nahash, et vous remarquerez que quand le Nahash arrive... Il parle d'Hachem, de Dieu, mais il ne prononce plus le Shem Avayé, il prononce que Elohim. Il vient et dit, c'est vrai que Elohim vous a tout interdit. Attends, Rashi fait remarquer que quoi? Qu'il voit très bien qu'elle est en train de manger.
Les
et c'est pas tous les magasins qui vendent du Viton, il y a aussi des imitations, elle a acheté déjà plein de sacs, imitation Viton. Donc tu ne peux pas dire que tous les magasins sont interdits. En plus, pourquoi tu dis Elohim alors que 10 fois on vient de dire qu'il s'appelle Avayé Elohim? C'est quoi le principe du Nahash? Le principe du Nahash, c'est très connu dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que quand un homme vit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, il y a eu effectivement des tas de moments difficiles dans une vie, il y a eu des tas de bons moments. Ça veut dire que sa vie, c'est Havaye Elohim. Ça veut dire que, bon, il y a un équilibre. Ça n'existe pas une vie toute noire. Mais qu'est-ce que fait le Nahash? Il te montre que le mauvais côté des choses. Il te montre que le mauvais côté des choses. Et on va voir pourquoi il s'appelle Nahash, pourquoi tu ne te rends pas compte que tu es tombé dans un piège. Il te montre que le mauvais côté des choses. Il te montre que Elohim. Et quand il te montre que Elohim, à ce moment-là, tu es déstabilisé. Pourquoi? Parce que si tu te fixes sur ce qu'il y a de mauvais et que tu ne vois pas tout ce qu'il y a aussi de positif ou de potentiellement positif que tu aurais pu extraire et auquel tu aurais pu donner vie, mais toi tu te concentres uniquement sur le négatif, ce qu'on appelle le Einara. Le Einara, ce n'est pas le Einara de nos grands-mères en Algérie ou au Maroc, c'est pas ça. Le Einara, c'est vous et moi. Ça veut dire que tu as deux manières de voir la vie. Tu as deux manières de voir celui qui est en face de toi. Tu peux le voir avec un bon œil, Ein Tova. Ça veut dire qu'il y a des gros problèmes, mais d'un autre côté, il y a tellement de potentiel, il y a tellement de bonnes choses, tellement de choses à voir et à faire vivre et à dévoiler. Ou tu peux avoir le Ein Hara, ça veut dire que c'est parce qu'il y a effectivement un gros problème. Et tu t'enfermes là-dessus. À ce moment-là, tu commences à te déstabiliser. Lui, il est venu comment? Il leur a dit comme ça. Je vais vous donner un dans la vie de tous les jours, ce que ça peut vouloir dire. Eux, ils sont dans le Gan Eden. Ils sont dans le Gan Eden, ça veut dire qu'ils sont dans une situation finalement complètement protégée. Je vais vous donner un exemple de ce que pourrait être, dans un contexte très moderne, le Nahash. D'accord? Imaginez-vous, on est en temps de guerre. Comprenez bien ce que je viens de dire, ne faites pas de faux pas sur ce que je vais dire, parce que c'est une mine. Un faux pas, on saute. Comprenez bien. On est en pleine guerre, et puis les meilleurs de nos enfants partent au front. Une plouga est tombée dans un guet-apens, d'accord? La moitié se sont fait assassiner dans des conditions horribles. Il était témoin de ça, il est arrivé à s'échapper. Borchem, il a pu s'en sortir. Pendant ce temps-là, il y a une partie de nos enfants qui sont au Gan Eden, ceux qui sont à la Yeshiva. Je dis encore une fois, je mets des mines, comprenez pas mal. Ils sont au Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Et qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Et machin, etc. Ils ne se rendent pas compte que à 50 km d'ici, des jeunes du même âge qu'eux sont en train d'être égorgés, coupés. Qu'est-ce qu'on leur fait? Prisonniers. Mais eux, ils sont au Gan Eden. D'accord? Tout d'un coup, arrive un de ces soldats rescapés. Il rentre dans la Yeshiva, il défonce la porte. Il dit, mais arrêtez avec votre Gan Eden. Mais c'est complètement artificiel tout ça. Mais vous savez comment est le monde? Vous savez comment est le monde? Mais vous savez ce que c'est la vraie vie quand vous sortez de chez vous? Vous savez ce que c'est la vraie vie? À ce moment-là, la réaction, elle peut être double. Ça peut être, il faut que tu réagisses, comment tu vas? Surtout s'il te montre des photos. Aujourd'hui, chaque soldat, il a un portable avec lui. Il a des photos, des têtes égorgées, etc. Il a des photos, il leur montre. À ceux qui ont se rendu dire, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? D'accord? Alors tout d'un coup, rentre Midatadin dans ton Gan Eden. Comment tu réagis? À ce moment-là, il faut ou bien que tu trouves un sens très profond à ta présence dans le Gan Eden. Il faut que tu sois persuadé que tu le vis au plus profond de toi, que ta présence dans le Gan Eden, elle fait partie de ce qui, d'une certaine manière, évite la disparition du peuple juif. D'accord? Mais vous allez en trouver un sur un milliard. Et encore, je ne sais même pas, 1 sur 150 milliards de milliards qui va arriver à ce moment-là à ressentir vraiment que lui aussi, il est utile. Ou bien, ce qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent, c'est que finalement, on va tomber face à une remise en cause brutale comme ça, on va se saouler. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Se saouler. On va essayer, bon, de... Allez,
on oublie.
On tombe dans l'indifférence, machin, etc. Bah ouais, c'est que des sionistes, j'en sais rien. S'ils étaient tous dans la Torah, ça n'arriverait pas. On se saoule. C'est-à-dire, on va inventer quelque chose qui va faire quoi? Qu'on va supporter l'agression. On va se saouler. Maintenant, regardez. Je reviens maintenant au texte et après je reviens à des exemples. Regardez ce que disent nos maîtres. L'arbre défendu, c'était comme par hasard 19 mètres du vin, de l'alcool. C'était une vigne, du vin. Le Ari HaKadosh, après je vais tout vous traduire en français ce que ça veut dire. Le Ari HaKadosh dit qu'en vérité, cette vigne, elle était destinée à être bue quand Motsé Shabbat, Melavé Malka, le repas du Mashiach. Il y avait trois séoudotes de Shabbat et Melavé Malka. Le Ari HaKadosh révèle qu'en vérité, il n'est dit nulle part que ce sera tout le temps interdit. Il était interdit de boire de ce vin avant le temps décidé qu'était Melavé Malka. Ce qui peut dire que finalement, ça, c'est un coup que j'avais déjà fait il y a longtemps, ce fruit défendu était tout simplement le plus extraordinaire des fruits du Gan, d'après le Ari HaKadosh, puisque la plus grande, la plus puissante de toutes les séoudotes de Shabbat, c'est précisément la quatrième. La seule qui est en rapport avec la délivrance finale. Alors pourquoi c'était interdit avant? Parce que c'est très simple. Dans l'existence, il y a deux types de vin. Il y a le vin interdit et il y a le vin de l'âme. L'âme aussi, elle a son propre vin. Ça veut dire que lorsque tu es confronté à Midat HaDin, si le vin de ton âme ne se réveille pas, si tu ne mérites pas que se réveille en toi une force qui te permet de dire, mais ça a un sens tout ça, d'accord ? Si elle ne se réveille pas cette force-là, comme tu ne supportes pas Midat HaDin, qu'est-ce que tu fais ? Tu te saoules. La drogue, l'alcool, la débauche. On va y arriver à Noir. L'alcool, la débauche, les fuites, la lâcheté. Ce sont toutes les formes d'alcool dans lesquelles celui qui n'a pas eu, parce qu'il n'a pas le mérite ou parce qu'il n'a pas voulu travailler, n'a pas réveillé le vin de son âme. Vous savez qu'il y a Ina pour Gematria, Sod, le secret. Nirnas Yain Yotse Sod. Ça veut dire que chaque âme a cette force du secret. C'est quoi le secret? Pourquoi on a besoin d'un secret? Quand tu es confronté à Midat HaDin, Midat HaDin, ce n'est pas forcément une épreuve qui te tombe sur la tête. Midat HaDin, c'est une situation étouffante. On a tous dans notre vie ce qu'on appelle, je le dis tout le temps, des trous noirs. Parce que l'univers est créé aussi avec des trous noirs. Il n'y a pas que des forces de vie et de construction, il y a des trous noirs qui absorbent tout. Il y a des situations dans la vie où on se sent absorbé. J'existe plus, je peux plus, je dois m'enfuir, je peux plus. Je vais crever. C'est ça Midat HaDin. À ce moment-là, il n'y a que deux possibilités. Ou tu as le Yain Haneshama chez Mit Orer, ou tu as le même vin, mais le vin de la lâcheté, la fuite. D'accord ? C'est quoi le vin de la lâcheté, la fuite ? Mais dans tous les domaines de l'existence. D'abord, ça commence déjà. Pourquoi il y a tellement de drogue aujourd'hui ? Pourquoi il y a tellement d'alcool ? D'accord ? Mais je vous ai déjà dit, ça c'est ça, je peux dire qu'à une femme, parce que les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je vais dire. Parce qu'un homme ne fonctionne pas du tout comme une femme. Mais 99,9% des femmes normales qui s'en vont ailleurs, ce n'est pas des débauchés. C'est quoi ? C'est de l'alcool. Ça veut dire qu'elles avaient besoin de quoi ? De ressentir ce dont elles sont privées. De l'affection, de l'attention, de l'amour, une parole, quelque chose qu'elles n'ont plus chez elles. C'est pas de la débauche. Ça doit pas être enregistré ce que je dis, parce que les fous vont rien comprendre. C'est pas de la débauche. Un homme, pas. Un homme, c'est toujours de la débauche. Un homme ne cherche que le plaisir, pas la femme. La femme, elle cherche à être construite. Et donc, quand elle n'est pas construite par son mari, elle va voir ailleurs. Et c'est pour ça que le ailleurs, c'est un serpent. Quand tu te rends compte que tu t'es fait avoir, c'est déjà trop tard. Parce que il va te faire le grand jeu pour t'avoir. Il sait exactement ce que tu cherches. Exactement les bons mots, les bons gestes. Tout ce que tu cherches, c'est ça un serpent. Excuse-moi de prendre un exemple si parlant, mais c'est comme ça dans tous les domaines de l'existence.
C'est le
dimion. Voilà, c'est le dimion. Il agit ici. Il sait exactement le serpent, ce dont tu manques, quel est ton trou noir, il va te le donner. Une fois que tu es prise, il dit maintenant, crève, je t'ai eu. Et il te compresse et il te jette après.
Comment ?
On va y arriver. Comment ? On va y arriver à Sarah. Donc, comment ? Parce que le vin, il donne la simcha. Je vais y arriver.
La détente.
Yain, yesamar, levav, enosh. Il donne une simcha. Face au trou noir, si tu n'as pas ce vin de l'âme qui se réveille, qui te permet de dire « Oh, mais bien sûr, mais je comprends pourquoi !» et qui te donne une simcha énorme, tu craques. et tu n'arrives pas à surmonter le trou noir. La seule différence entre les trous noirs de l'existence et ceux du cosmos, c'est que eux, tu peux monter et descendre, il reste des trous noirs, mais les trous noirs de ma vie, je peux les transformer en trous de vie ou en moteur de vie, ça ne dépend que de moi. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui dit à Chava chose suivante, cet arbre-là, si tu sais travailler pour arriver à boire ce vin dans de bonnes conditions, le Nahash, tu vas lui écraser la tête. Tu vas te rendre compte que ton oppression, en vérité, t'es plus fort que cette oppression-là. Parce que ce vin-là, il va réveiller ce qu'on appelle la bina de l'âme, la vin davar mitor davar. Il y a trois choses en numéro. Bina, simcha, yain. Yain dans le sens, le vin de l'âme. Ça veut dire que la bina, c'est la vin davar mitor davar. Tu poses la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette oppression? Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème? Derrière ce Elohim, cette midatadine? Mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives, la vin davar mitor davar. À ce moment-là, se révèle le vin de l'âme. Tu sens une simcha incroyable en toi. Tu te sens apaisé. Tu te sens, waouh, ça y est, j'ai compris. Maintenant, je sais comment assumer. Je sais comment réparer. Je sais comment avancer. Maintenant, ça, c'est le fort, c'est le grand. Qu'est-ce que fait le lâche? Le lâche, il dit, c'est pas grave. Je vais me saouler pour oublier. Je pars, je m'en vais, je me saoule, je me drogue, je me débauche. Peu importe, la télé, le cinéma, les cartes, n'importe quoi. J'oublie. Je m'en vais. Je démissionne. La faute de Chava, c'est qu'elle a démissionné. Elle a pris la même vigne. Au lieu que ça soit du vin de l'âme, c'est devenu du vin du corps. Elle est tombée. La première faute de l'humanité, c'est la démission d'un homme face à son trou noir. Comment? En se saoulant. Mais on sait très bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, les relations humaines, ça dure le temps d'avoir remboursé le mariage. Ça marche pas, c'est pas grave. Hop, on change. Faire quoi? Pourquoi? Jamais une génération n'a été autant sombré dans la faute de Chava que notre génération. Il n'y a plus aucun combat, plus aucune confrontation. Ça va pas? Je me saoule. C'est pour ça qu'il y a tellement de drogue. C'est pour ça qu'il y a maintenant la plus grande drogue qu'on a trouvée maintenant. Si je l'ai pas devant moi, je ne sais pas, mais c'est quoi? C'est le portable. Mais c'est quoi le portable? Je n'arrive plus à dialoguer avec qui que ce soit, mais je ne peux pas rester sans parler. Qu'est-ce qu'ont inventé les hommes? Le portable. C'est-à-dire que je parle toute la journée sans ouvrir la bouche. Parce que dès que j'ouvre la bouche, je me fais engueuler. Alors maintenant, c'est pas grave. Vous connaissez tous l'image extraordinaire qui a fait le tour du monde entier sur Internet de cette famille au restaurant? Le père, la mère, la fille, ils sont tous avec ce smartphone. Mais elle est extraordinaire, cette image-là. Pourquoi? Mais parce que le premier qui ouvre la bouche réellement, ça veut dire, oh, tais-toi, tu dis toujours des bêtises. Si c'est le mari, le pauvre, qui ouvre la bouche, vous savez, il va être écœuré de manger. Donc, c'est pas grave. On est content d'en parler avec quelqu'un, et puis lui nous engueule jamais, parce que quand on en a marre, on éteint. Pas de problème. Ça, c'est pire que l'héroïne. Enfin, la mauvaise héroïne. C'est pire que la coque, c'est pire que cristal, c'est pire qu'un joint, c'est la pire des choses, ça. Pourquoi? Je suis plus là. Fini. Et l'humanité tout entière est tombée. Moi le premier. On est tous tombés. On est tous tombés. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la confrontation.
Heureusement qu'il y a Shabbat.
Chava, elle tombe. Heureusement qu'il y a Shabbat. Mais maintenant, vous comprenez aussi pourquoi nos maîtres nous disent qu'à l'entrée du Shabbat, il y a un malar qui s'appelle le malar du Kaas, le malar de la colère, et que deux ségoulottes pour casser le malar de la colère, Adlakat Hanerot et Afrashat Hachala. Mais s'il n'y a pas Adlakat Hanerot et Afrashat Hachala, d'accord, il rentre dans la maison. Qu'est-ce qu'a fait ce malar-là? Il était au chômage pendant des siècles. Mais dans nos générations, comment qu'il nous a eu? Comment qu'il vous et nous a eu? Il sait pas, les chalotes, on les achète. Il n'y a pas Afrashat Chala, il n'y a que de la Katanerot, paf, le malari rentre. Révélé par le Ben Ishraï, entre autres. C'est pour ça que dans une maison standard, c'est le feu le Shabbat. Pourquoi? Parce que le malar Hakas, il est rentré, justement. Comme il n'y a pas de possibilité de dire, écoute, tais-toi, reste dans ton coin, moi dans le mien, on ne se dispute pas, on a chacun son smartphone. Il n'y a pas de smartphone le Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a toi. Et toi, depuis le temps que je t'ai dit. D'accord. C'est ça le problème. Maintenant, mettez-vous à prélever les chalotes et vous allez voir, en principe, ça va s'arranger. Sauf si vraiment votre mari est un abruti. Mais alors là, ça ne marche plus. Mais s'il est normal, en principe, tous les Shabbats, tous les vendredis, vous faites les chalotes, en principe, ça doit marcher. Parce que l'Adaka, le malar savait très bien qu'il n'existe pas une femme qui n'a pas les nérotes. Donc il nous a eu avec l'histoire de... Il y a une histoire qui dit, pour la petite histoire, je ne sais pas si c'est authentique, si c'est vrai, il y a une histoire qui dit que la raison pour laquelle le rabbi l'a institué, que même les petites filles allument les bougies, c'est parce que le rabbi il voulait remplacer le manque. Il voyait que les femmes ne faisaient plus les halot chez elles, surtout la nouvelle génération, en plus américaine, d'accord. Il a dit, bon, alors le manque, on va le compenser, on va faire allumer par plusieurs les bougies. On dit que c'est ça la raison. Pour arriver à stopper le malar.
Et ça stoppait.
Voilà. Comment?
Et ça pouvait stopper le malar.
Mais si c'est ça la vraie raison, certainement qu'il savait que ça le stopperait. Il faut demander maintenant comment c'est chez les autres, j'en sais rien. Mais le...
Ça stoppe.
Mais voilà. Ok? Maintenant, je reviens maintenant. Donc, Chava, elle a essayé de faire face au Nahash. Elle a eu son trou noir, Elohim, elle est tombée, elle s'est saoulée. Et embêtée, c'est ce que disent nos maîtres. Elle est partie avec un autre. C'était qui l'autre? C'est le Nahash lui-même. Nos maîtres disent qu'en vérité, elle a eu une aventure avec le Nahash.
Mais pourquoi elle a eu un trou noir, Rabat?
Comment
c'est qu'elle a eu un trou noir, Rabat? C'était dans le Gan Eden.
Mais parce qu'il n'y a pas de vie sans... Mais parce que même dans le Gan Eden, tu as ton trou noir. Même Bezrat Hashem, quand vous êtes en croisière avec le prince de votre vie, c'est impossible qu'il n'y a pas un moment où il ne va pas vous dire un petit mot de travers. C'est impossible. Même dans le Gan Eden, il y a un trou noir. Parce qu'on reste des humains. D'accord? Vous imaginez, je veux dire, la jeune mariée qui fait sa lune de miel dans une croisière de rêve. Et puis ça fait 2 jours qu'ils sont mariés. Puis tout d'un coup, le jeune mari, il appelle sa mère pendant 2 heures. Je lui dis, mais attends, je comprends pas. Mince alors, ta mère, je l'aime bien, quel âge elle a. Je comprends. Ben oui, ça peut arriver, mais dans une croisière qu'il appelle sa mère pendant 2 heures, ça va vous rendre folle. Vous allez rechercher, il n'y a pas des requins, parce que... Comprenez. Évidemment. Non, la méchante, c'est la maman. Tout de suite, elle devrait dire, écoute, mon mari, tu viens de te marier, je t'en supplie, arrête, reste avec ta femme. Non, mais Google, c'est les belles-mères. T'as plus rien à me dire. Ça fait qu'une heure qu'on se parle. Et puis, la belle-mère, elle imagine. La jeune mariée, elle imagine. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Les belles-mères, mais c'est un vrai poison. C'est insupportable, une belle-mère. Mais vous imaginez pas. Vous voyez une belle-mère, vous regardez une tête de mort, c'est la même chose. On continue. Maintenant.
On est tous des belles-mères. Comment...
Je parle du belle-mère du côté de la fille, hein, pas du côté du mari. Celle-là, c'est du poison. Maintenant, sauf si elle a su travailler sur elle-même. Mais non, je reviens maintenant. On arrive à Noah. On va faire plus que 11 heures. On peut faire plus que 11 heures un petit peu. On arrive maintenant à Noah. Noah, lui, c'est pareil. Il se saoule dès qu'il sort de l'arche. Pourquoi? C'est très facile à comprendre.
Il ne veut pas assumer.
Ben, bien sûr. Il ouvre l'arche. Il voit
le néon,
la fin du monde. Comme dans les films. La fin du monde. Il ne reste rien. À ce moment-là, il regarde Hachem, dit le Midrash, il dit à Hachem, je comprends pas Hachem. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que lui répond Hachem? D'accord? Il dit, Shatia bar Shatia, imbécile fils d'imbécile. Vous voyez, même jamais dit des gros mots. Imbécile fils d'imbécile, il lui dit, c'est maintenant que tu ouvres la bouche. Quand je dis j'allais détruire mon monde, tu peux pas l'ouvrir. Tu peux pas dire non, comme va le faire Abraham, comme va le faire Moshe. Maintenant que c'est fait, tu me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon monde? D'accord? Il voit le monde détruit. À ce moment-là, imaginez-vous le choc. Mais c'est évident, quand on fait un voyage en Pologne et qu'on va sur la trace de nos cendres, c'est évident que c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Où tu trouves un sens, où tu commences à te saouler. C'est-à-dire que tu oublies, tu changes ton nom et... Allez, tu t'appelles Bornstein, tu vas t'appeler Roque Brune. Je promets, je connaissais un médecin en France qui s'appelait Roque Brune. Après des années, on a appris qu'il s'appelait Bornstein. Roque Brune, c'est la production de Bornstein. Pourquoi vous avez changé votre nom, Roque Brune, monsieur Roque Brune? Je suis un enfant de la Shoah. D'accord. On avait connu un nom, il s'appelait Fermont. Fermont, ça fait comme très français. Heisenberg. Ben oui, Heisenberg, c'est Fermont. Ben oui. Ben oui, c'est comme celui qui s'est fait appeler Shalom, pour pas qu'on sache qu'il est juif. C'est la traduction de Katzman. Mais bon... Traduction de Katzman. Katzman, c'est Shalom. Parce qu'il pensait qu'on ne savait pas qu'il est juif. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez? Donc, ils ont besoin de se saouler. Donc, ils changent de nom. Il s'appelle Fermont au lieu d'Eisenberg. Il se marie avec Christine. Ça y est, c'est le meilleur de tous les alcools. J'oublie, c'est fini. Dans notre famille, on a eu des cousins germains. Les parents rescapés, ils sont partis en Amérique. C'est mes parents à moi qui leur ont appris, passé 20 ans, qu'ils étaient juifs. Derrière le dos de leurs parents, qui jusqu'à 20 ans ne savaient pas qu'ils étaient juifs. Changer le nom, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs. Un jour, en venant en vacances en France, ma mère, elle a pris sur elle, tant pis de disputer avec l'autre partie de la famille, elle a dit, mais il leur a expliqué, ils étaient juifs. Ça, c'est se saouler. Évidemment, c'est ce qu'il a fait Noir. Noir, il sort, il voit le monde détruit, il voit Auschwitz. Et il a besoin ou bien que le vin de son âme s'allume, ou bien il sombre dans le vin réel. Alors qu'est-ce qu'il a voulu faire, Noir ? Noir n'était pas un soulard, ce n'était pas un voyou. Noir, ce qu'il a voulu faire, c'est quoi ? C'est de voir s'il arriverait à ouvrir le vin de son âme, c'est-à-dire Hachem. Est-ce que je vais comprendre ? La vin d'avam et d'avar, nichnas yain yotseson. Est-ce que je vais comprendre, Hachem ? Il n'a pas été méritant. Le vin de son âme s'est pas ouvert. Et c'est l'alcool. Il a oublié.
On a créé.
Et c'est comme ça qu'on en a pris pour 3000 ans. Knaan, etc., etc. Encore une fois, on a les deux lettres de Nahash. Arrive Sarah. Alors là, j'ai encore besoin de 10 minutes, un quart d'heure. Arrive Sarah. Sarah, elle commence le tikkun. Sarah, le Zohar dit, elle a eu, mais le grand trou noir de sa vie. Vous voyez, Sarah, vous imaginez, pour vous rappeler qui est le personnage, il avait 75 ans, elle avait 65 ans, ils sont prêts de descendre en Égypte, d'accord ? Malgré qu'elle a 65 ans, elle est toujours plus belle encore qu'une jeune fille de 10 ou 19 ans, on vient de le lire, à 100 ans, elle était aussi belle qu'à 20 ans, etc. Donc elle n'a jamais, en tout cas 65 ans, c'est sûr qu'elle n'a pas perdu sa beauté. Donc une femme extrêmement belle, excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, mais nos maîtres disent que toutes les femmes à côté de Sarah, c'est comme une guenon par rapport à une femme. Bon, on s'en fout, on l'a pas vu, mais d'accord. Donc. Mais miroir, suis-je la plus belle ? Oui, mais Sarah est plus belle que toi. Très bien, ok. Donc, une femme extrêmement belle, et une phrase absolument incroyable, il a 75 ans, elle a 65 ans. Et Abraham lui dit, « Atayadati ki isha yefat toara. Maintenant, je sais que tu es une belle femme. » Rachid dit quand même, 75 ans, au moins 50 ou 60 ans de mariage, il ne sait pas que c'est une belle femme. Rachid dit, ils étaient tellement de sanoua qu'ils ne s'étaient jamais regardés. Mais maintenant qu'il s'apprête à entrer en Égypte et qu'il a peur, il veut s'assurer si elle est très belle ou pas, s'il doit la cacher ou qu'est-ce qu'il doit faire, il la regarde comme ça d'une manière furtive. Donc maintenant, tout le monde sait que dans la relation entre un homme et une femme, pour qu'un homme ne regarde pas la femme, il faut que la femme ne veuille pas être regardée. Parce que la tsniout, elle n'est pas du côté de l'homme, elle est du côté de la femme. C'est évident. C'est bien. Donc s'il ne l'a pas regardé pendant 60 ans de mariage, vous imaginez le monument de tsniout qu'est Sarah. Elle tombe dans la chambre de Pharaon, qui lui saute dessus. Et imaginez ce que c'est ce barbare. Imaginez-vous le trauma. Imaginez-vous le trou noir, imaginez le machber. Vous prenez la plus tsnoua de toutes les femmes du monde, vous la mettez en face d'un démon, d'un débile mental pareil, d'un obsédé sexuel pareil, et toute seule dans sa chambre. Vous imaginez ce qu'elle va vivre jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Très bien, très bien. Elle a été aidée, il y a eu un ange, peu importe, mais on n'est pas au Talmud Torah, on ne va quand même pas prendre les choses au premier niveau. Ça a été une souffrance terrible. Le Zohar dit ça a été son Elohim à elle. Ça a été son trou noir, le trou noir de sa vie. Jamais elle a eu une souffrance, une souillure, une humiliation aussi... c'est pour ça que c'est si grave le viol. Comme vous le savez toutes, le viol, ce n'est pas le problème physique en tant que tel. C'est le problème moral. Qui est d'autant plus grave que si je suis une femme qui n'est pas du tout dans ces choses-là. Donc Sarah, c'est l'extrême absolu contraire de toutes ces choses-là. Donc imaginez. Donc c'est son grand, grand trou noir. Maintenant, regardez quelle va être la réaction de Sarah. D'abord, j'explique le comment, après on va expliquer le pourquoi. Elle accepte que la fille de son violeur puisse rejoindre leur famille. Ben oui, Agar, c'est la fille de Pharaon. Et si on comprend ce qui se passe, mais elle est complètement tarée, c'est pas possible. La fille du violeur. Mais qu'elle crève. La fille du violeur. Vous me direz, non, mais c'est pour la punir, parce qu'elle va devenir une servante. Non. Elle va dire à son mari, prends-la comme épouse. Ça veut dire quoi? Non, mais attends, mais c'est pas possible. la fille du violeur, l'épouse de mon mari. Déjà, pour une femme normale, même dans le contexte biblique de la polygamie, et on sait très bien que c'est loin d'être évident. Même à l'époque de la polygamie, les femmes s'entretuaient. Comment qu'on les appelle ? Sarot, les haineuses. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de plus contraire à la nature humaine que de partager quelqu'un. Pourquoi la Torah l'a autorisé ? C'est pas le problème maintenant. Baruch HaShem, c'est interdit aujourd'hui depuis fort longtemps. Mais quoi qu'il en... Et ce sera toujours interdit, même quand ma chère reviendra, on ne reviendra pas aux anciens... Ce sera toujours interdit.
Tant mieux.
Et la preuve, c'est que Yitzhak et Rivka, ils étaient un. Et c'est eux le modèle du couple dans la Torah. Pour bien nous montrer que le vrai modèle, c'est une femme, c'est pas plusieurs. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez le trauma qu'elle a. On a tendance à oublier. Elle garde avec elle le souvenir de son trauma et elle donne le souvenir de son trauma à son mari. Non mais elle est folle ou quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Revivez maintenant l'histoire comme vous ne l'avez jamais vécu, parce que nous, on comprend les versets. C'est, il était une fois l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, on ne comprend rien. Rentrez dans le vécu des choses. Mais comment c'est possible? Elle est folle ou quoi? Et pourquoi? Parce qu'elle a une simcha de folie. Oh, elle a une joie, elle pleure de joie. Depuis que Agar est rentrée dans sa maison, elle pleure de joie. J'ai presque envie de pleurer pour vous montrer comment je ressens ce qu'elle ressent. Grâce à ça, on va avoir un enfant, mon mari et moi. Grâce à ça, on va avoir un enfant, mon mari et moi. Elle a compris que tout ce qui lui était arrivé, de tomber dans ce trou noir horrible, c'était juste pour récupérer Agar. Pour que son mari puisse faire sortir avec Agar ce qui empêchait à elle d'avoir un enfant. Parce que la clipa précède toujours le fruit. Et qu'il fallait que ce qui n'est pas pur sorte d'abord dans un autre ventre, afin que ce qui est pur puisse sortir dans son ventre à elle. Agar, non, parce qu'elle savait que c'était le réceptacle qu'il fallait. Elle était une grande prophétesse, plus grande qu'Abraham encore. Elle a compris que le prix à payer pour devenir la mère d'Israël, c'est ce trou noir que Hachem lui a fait. Vous imaginez la simra d'une femme qui, par exemple, dans un autre contexte, doit subir des traitements pour être enceinte, mais qu'elle est sûre et certaine, malgré les difficultés des traitements, que c'est ce qui va faire qu'elle va avoir un enfant. Elle le vit comme un trou noir ou elle le vit comme une grande joie? Chez elle, c'est multiplié par des milliards le trou noir, mais c'est pareil. Elle a compris qu'il y avait toute une providence divine qui faisait que quoi? Que finalement, cette obscurité allait devenir sa lumière. Et c'est pour ça qu'elle dit à son mari la regarde comme ça, c'est avec le sourire, j'imagine, elle lui dit, mon mari, tu pourrais pas te marier avec Agar? Il la regarde comme ça.
On est obligé de créer cette obscurité qui nous a... Qui nous
non, alors ça, on va voir tout de suite. On va y arriver. Elle lui dit, mon mari, tu veux pas te marier avec Agar? Son mari la regarde comme ça, il dit, Agar? Mais pourquoi Agar? Non, va. Mais tu sais quoi? Agar, il faut la remercier, Agar, d'exister. Elle t'aime la force en disant, grâce à Agar, on va avoir un enfant. C'est-à-dire que la souillure va se transformer en vie. Alors maintenant, pourquoi Hachem fait ça? Pourquoi Hachem fait qu'on doit passer par l'obscurité pour arriver à exactement le contraire? Mais pour nous faire comprendre une fois pour toutes qu'à chaque fois que tu es en face d'une obscurité, c'est là qu'Hachem te cache la plus grande des lumières. Arrête de te saouler. Fais l'effort de réveiller, tout simplement, le vin de ton âme. Sarah a commencé à faire le tikkun lorsqu'elle a compris que toute cette obscurité par laquelle elle était passée, c'est pour lui permettre d'atteindre un niveau que jamais elle aurait pu atteindre sans ça. Et pourquoi? Mais parce que c'est très facile à comprendre. Quel rapport avec le vin? Qu'est-ce qui fait le vin? Pourquoi quand on boit du vin, on a des blocages qui tombent et on se sent plus illimité que selon nos limites, on dit des choses. Pourquoi? Parce que le vin a la capacité de nous faire sortir de nos limites. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on est coincé dans le trou noir? Mais c'est exactement ce qu'il a commencé. Parce qu'on ne voit que la mamachoute de la chose. On est bloqué dans l'extériorité, dans la limite, dans l'espace-temps. Ce qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il fait. On est coincé là. Et donc automatiquement, on a besoin de boire du vin. Le vin, il va dilater nos sens. Et le vin de l'âme, il va faire que tout d'un coup, on va être capable de prendre suffisamment de hauteur pour se rendre compte que quoi? Que derrière cette obscurité se cache en vérité un trésor incroyable. Et si jamais je me saoule, je passe à côté de ce pourquoi je suis venu sur terre. Ça veut dire que si Sarah, en sortant de la maison de Pharaon, avait dit qu'il crève, lui, sa femme, ses enfants, qu'ils aillent tous se faire voir, je ne veux plus entendre parler, elle n'aurait jamais eu d'enfant et on ne serait pas là aujourd'hui. Elle ne pouvait avoir un enfant que comme ça. Eh bien, il faut savoir que dans 99% de ces trous noirs dans l'existence qu'on a fui en se saoulant parce qu'on ne voulait pas donner la force de regarder le problème en face et de le surmonter, et qu'on croit qu'en fuyant on va résoudre le problème, il faut savoir qu'à chaque fois, c'est un nouveau trésor à côté duquel on est passé. Et on passe sa vie à foutre nos trésors en l'air. Pourquoi ? Parce que dans chaque trou noir, il y a un trésor, oui. Dans chaque trou noir, il y a un trésor. Maintenant, ça c'est le cours. Maintenant, évidemment, quand on descend sur le terrain, c'est évident que chaque cas doit être traité en tant que tel. Mais chaque trou noir, ce que je dis, oui, c'est sans nuance. Chaque trou noir a son trésor qui est caché.
Mais c'est pas possible voilà. Qu'au moment où il y a le trou noir, enfin, c'est possible pour Sarah, mais on n'est pas tous Sarah et nous. C'est très difficile qu'au moment même où il y a le trou noir, on réalise qu'il y a un trésor derrière. Ça ne peut pas être un tarif, par exemple, on digère, exemple, quelqu'un qui subit une épreuve, alors il subit l'épreuve, et il n'a pas besoin d'un temps d'adaptation pour digérer l'épreuve, pour ensuite se rendre compte qu'il y a la lumière derrière.
Je suis d'accord avec vous, c'est de vrai l'exemple très simple. Dans un match de boxe, un vrai boxeur, il prend un coup, il a des étoiles pendant un certain temps, voilà. Mais il ne tombe pas KO parce qu'il est entraîné et parce qu'il est robuste. Okay. Ce qui veut dire qu'en vérité, effectivement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot nisayon qui veut dire épreuve est le même mot qui veut dire aussi expérience. Ça veut dire qu'apprendre à résister à une épreuve, c'est aussi une question d'expérience. C'est vrai que c'est pour ça que le pasouk nous dit « Shiva yipol tzadik vekam ». Sept fois le juste tombe avant de rester debout. Parce que ce sont les différentes erreurs que l'on a faites qui finalement nous apprennent à ne plus en faire. Mais je dirais qu'on peut tout simplement répondre de manière qui est très simple. Hachem est bon et Hachem est un bon entraîneur. Un bon entraîneur, il va directement donner à son élève la grosse épreuve de sa vie tout de suite, avant d'arriver à l'examen qui va décider si on est pris dans une saillérette ou pas. On ne fait pas tout de suite l'examen final. Il y a un an d'entraînement, petit à petit, jusqu'au moment où ce n'est que les 5 meilleurs qui resteront, mais parce qu'ils ont eu le temps de se préparer. De la même manière, dans notre vie, Hachem fait la même chose. Il nous entraîne, Nisayon, il nous entraîne. Mais arrive le moment où Hachem pense que tu es suffisamment entraîné. Vu ton âge, vu ton expérience, vu ce qu'on est capable d'attendre de toi, à ce moment-là, tu loupes, t'es mort. Pourquoi ? Parce que là, t'as plus d'excuses. C'est-à-dire, tu te saoules, t'es mort. Et c'est ça le dilemme de la vie. Ou le sod, yain, j'ai compris le pourquoi, ou yain, qui est la faute de Chava, je bois un bon coup, je tombe par terre, j'oublie, et c'est tout. Et donc, c'est très important. Et maintenant, encore une fois, pour relier, j'ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Pourquoi Sarah ? Pourquoi elle a eu ce réflexe ? Parce que Sarah n'est pas restée prisonnière de l'apparence du trou noir. Parce que c'est sûr que quand on reste dans l'apparence des choses, l'homme qui lui a sauté dessus, mais est-ce qu'on a envie d'avoir sa fille dans sa maison ? C'est impossible ! Mais quand elle s'est posée la question, mais pourquoi il m'arrive ça ? Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? C'est pas possible que tu me fasses ça ! Pourquoi moi ? Qui suis l'exemple, le modèle de la pudeur ? Pourquoi moi ? Elle a commencé à réfléchir, elle a dit, mais c'est sûr, comme dans le film, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Pourquoi elle a compris ? Et si peut-être j'arrivais pas à avoir un enfant avec mon mari, parce qu'il y a une clipa à évacuer d'abord ? Eh bien, elle est là pour ça, elle. Évacue, et après tu me donnes à moi le bon. Et c'est exactement ce que dit le Zohar. Donc, toute sa tristesse, elle l'a transformée en joie.
C'est ça le secret, c'est d'être joyeux.
Oui, mais pour être joyeux, il faut avoir ce sot qui se révèle. Et si on prend du recul, on s'aperçoit très très vite que dans des grands problèmes qu'on a eu dans l'existence, si on se donne le temps d'avoir tout le film du début jusqu'à la fin, on se rend compte que mais finalement, si c'était pour en arriver là, ça valait peut-être la peine de passer par. Mais surtout, jamais ce que j'ai appelé, enfin ce que le Zohar appelle dans son expression, l'alcool, ça veut dire l'alcool, c'est la fuite. Ça veut dire qu'on n'assume pas le problème, on lui tourne le dos. Et ça n'amène toujours que des catastrophes. Pourquoi ? Parce que de toute façon, quand tu tournes le dos à un problème, le prochain, il ne te loupera pas. Il ne te laissera même pas lui tourner le dos. Il t'aura complètement. Et ainsi de suite. Donc de toute façon, à partir du moment où tu tournes le dos, tu es fragilisé. Parce que quand quelqu'un a le dos tourné, c'est facile de lui tirer dessus. Et donc, c'est la dernière chose à faire de tourner le dos. Toujours regarder face à face le danger. Pourquoi ? Parce que tu peux réagir. Mais si tu as le dos tourné, c'est fini. Bezrat Hashem, que des bonnes choses à tout le monde.